RMC.
Vu le fait que les joueurs soient les ses meilleurs joueurs, enfin en tout cas les trois dans le groupe, les trois joueurs importants soient partis.
Ils avaient besoin d'entendre une nouvelle. Ouais, mais bon, je veux pas revenir sur ce qui s'est passé avant.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous, l'after est là comme tous les soirs jusqu'à minuit à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport News. À mes côtés ce soir jusqu'à minuit, monsieur Jonathan Macardy. Bonsoir Jonathan. Il y a très peu dormi paraît-il, ouais. Et c'est pas forcément à cause des klaxons algériens à Paris.
Très bien, oui, mais cela restera entre nous. Hein. Salut les gars.
Damien Périnel avec nous. Salut Damien.
Bonsoir tout le monde.
Parfait.
Moi j'ai bien dormi moi.
T'es bien ?
Ouais, parfait.
T'as l'air
parfait.
Pas de cernes sous les yeux. On est ensemble jusqu'à minuit les gars, avec un gros programme. Oui, on est fin juillet, pourtant il y a beaucoup de choses à raconter. Bien sûr, la Coupe d'Afrique des Nations, le retour triomphal des Fennecs à Alger cet après-midi. On se posera ces questions également. On va se projeter ce soir dans l'after. Quel avenir pour la sélection algérienne ? Peut-elle devenir une grande nation du foot mondial ? On va extrêmement loin, on en parle ensemble. Le 32-16 bien sûr est ouvert pour tous les supporters algériens. Rien. Tiens, on fera aussi les tops, hein, Damien, Jonathan et flop de la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe type également, celle de l'after, la vôtre aussi. Et puis à 22h30, supporters lyonnais, soyez au rendez-vous, on jugera les premiers pas de Silvinho, le coach brésilien de l'Olympique lyonnais. Êtes-vous séduit ? Il est hyper fort en communication pour l'instant.
Il est happy to be here in Olympique lyonnais.
Il est very happy, et c'est Jean-Michel Aulas hein, qui parle très mal anglais.
Ouais, ça.
Extrêmement mal anglais. À 23h, rendez-vous aussi pour
les. Il fait du bon business avec les.
Voilà, mais il fait un mercato exceptionnel. Ouais. À 23h, on viendra également sur Nürnberg. Nürnberg, c'est Nuremberg en allemand. Face au PSG, match amical qui vient de se terminer il y a quelques minutes seulement. Un partout entre les Allemands et les joueurs de Thomas Tuchel. On évoquera le recrutement parisien avec cette question. Est-ce que le recrutement parisien, Herrera, Sarabia, entre autres pour l'instant, est-il ambitieux, suffisamment ambitieux pour aller, pourquoi pas, chercher une Ligue des Champions dès la saison prochaine. Voilà les questions qu'on se pose ce soir dans l'after. Et on a un invité, messieurs, ce soir. Il s'appelle Tristan Baudenay-Pessotto, auteur avec Thomas Porlon d'un documentaire intitulé Evry, l'autre Cannes, l'autre Coupe d'Afrique, qu'on peut voir sur YouTube actuellement. Salut Tristan.
Salut, bonsoir à tous.
Vous avez suivi avec Thomas Porlon pendant plusieurs semaines un tournoi d'amateurs où 10 pays africains étaient représentés. C'était quoi le concept ?
Les pays d'origine des parents, en fait, dans un quartier d'Evry, voilà, des joueurs qui se sont dit, des habitants qui se sont dit « Allez, on va faire notre canne de notre côté, chacun son pays, le pays d'origine des parents. » Et ça a pris 2000 spectateurs au bord du terrain, une ambiance incroyable et surtout une vie de quartier qui a vraiment été incroyable pendant... près de deux mois.
Il y a eu plusieurs cannes parallèles en région parisienne, c'était
repris,
pas la seule.
Ça a été repris à Créteil, on sait pas vraiment où ça a commencé, mais en tout cas c'est celle d'Evry où il y a eu une effervescence incroyable, la plus célèbre.
Et vous avez tourné un documentaire d'une trentaine de minutes qu'on peut voir sur YouTube actuellement, qui est en train de bien marcher, on approche des 70 000 vues déjà en l'espace de 5-6 jours seulement. On en parle à 22h avec toi, évidemment. Messieurs, t'as suivi la canne ou pas ?
On a suivi la canne.
La vraie canne.
La vraie canne. Ouais, les deux.
La Coupe d'Afrique des Nations, terminée hier, messieurs. Ah, dit Jonathan. Pourquoi ah ?
C'était super sympa.
T'as adoré la compétition. Justement, on va en parler.
Peut-être pas exagérer, mais c'était hyper intéressant à suivre.
Intéressant. Terminé sur la victoire de l'Algérie, bien sûr. La folie à Alger cet après-midi. Vous voyez les images dans un instant sur RMC Sport News. Des dizaines de milliers d'Algériens dans la rue de la capitale algérienne. Les joueurs sur un bus à Impérial. On est avec Asma Halimi, rédactrice en chef du grand quotidien foot, d'un des grands quotidiens foot algériens, Compétition. Salut Asma.
Salut, salut Nicolas. Salut.
Merci d'être avec nous.
Salut Asma.
Tu as suivi pendant 42 jours, hein, tu m'as dit tout à l'heure au téléphone, la sélection algérienne. C'est comment l'ambiance déjà aujourd'hui à Alger ?
Il faut même pas prendre le risque de sortir en voiture. Il faut rentrer à Alger, c'est la folie. Franchement, tout Alger est bloqué, tout le monde est dehors à espérer voir et à percevoir le bus des joueurs et de l'équipe d'Algérie. Donc, c'est vraiment, vraiment la folie. On dirait un jour d'indépendant. C'est impressionnant.
Effectivement. Est-ce que c'est un des plus grands jours de l'histoire du sport algérien ? Certainement.
Ah oui.
Et même du pays également.
Ah oui, certainement. Il y a eu cette CAN 90. Il y a eu après la fameuse qualification face à l'Égypte au Soudan en 2009. Tout le monde s'en rappelle. Et il y a eu cette qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Un match héroïque aussi contre les Allemands. et surtout cette victoire. La première victoire de notre équipe nationale en dehors de l'Algérie, parce que jamais cette équipe algérienne n'avait réussi depuis sa création à gagner une CAN en dehors d'Algérie, la seule et unique fut en 90. Donc vraiment c'est un moment historique et vraiment peut-être le plus important avec celui de 90.
Et qui résonne encore plus fort, j'imagine. On en parle souvent dans l'after, le contexte politique actuellement en Algérie. Les dirigeants algériens contestés, la démission d'Abdelaziz Bouteflika il y a quelques mois déjà. Ça résonne et forcément, il y a un parallèle entre les deux événements.
Ah oui, il y a un parallèle parce que les joueurs, c'est des Algériens, ils disent ça aussi. Il y a beaucoup d'Algériens, il y a beaucoup de joueurs aussi. Il y a des franco-algériens, mais il y a aussi des joueurs ici du CRU qui vivent ici en Algérie, en joueurs. Et donc, ils sont très, très concernés par ce qui se passe. Chaque vendredi, il y a des manifestations pacifiques qui, justement, reflètent une très, très belle image de cette Algérie qui conteste, mais dans un climat vraiment impressionnant. Et donc, ces joueurs disent que, depuis le départ, même avant le début de cette CAN, même avec Jamal Belmadi, ils disaient que notre souhait, c'est d'apporter un peu de joie, un peu de bonheur à ce peuple dans une situation de crise, parce qu'il y a crise politique, qu'on le veut ou non.
C'est ce que les gens disent. Les gens disent deuxième étoile, c'est-à-dire pour la deuxième victoire à la CAN, maintenant place à la Seconde République.
Exactement. Donc il y a un parallèle. Les joueurs, à chaque fois, ils disaient nous sommes portés par ce peuple, par tout ce qui se passe. Il y a vraiment une belle image que les Algériens ont reflétée et on aimerait tellement faire votre mieux pour justement garder cette belle image et voilà, apporter cette joie. Mais ils étaient vraiment portés par ces manifestations et ce qui s'est passé. Ils voulaient, c'est-à-dire, il y a eu un moment de protestation et ils voulaient être dans ce mouvement aussi pour changer quelque chose.
Asma, quel est le climat à l'heure actuelle, on va dire le climat sociopolitique? On sait que le gouvernement qui avait affrété des avions pour transporter les supporters algériens en Égypte, ça avait été vu comme une belle manœuvre bien démagogique. Et le climat étant tendu depuis maintenant plusieurs mois, là aujourd'hui avec cette victoire à la CAN, est-ce qu'aujourd'hui on a mis un peu tout ça entre parenthèses ou est-ce que le football est toujours ce catalyseur qu'il est à travers les ultras des clubs du championnat local?
Catalyseur, je crois que
c'est catalyseur, ouais, c'est mieux. Pour contester le pouvoir.
Ils ont mis ça en parenthèse, mais ça va reprendre. Tout le monde dit que ça va reprendre. Place à la joie, place à la fête. Tout le monde était content et heureux que l'État ait mis à disposition quand même des avions, d'apprêter des avions pour presque rien, parce que 31 000 dinars pour 2-3 jours avec hôtel.
C'est combien ça, tu penses, en euros, Asma?
C'est 150 euros. Un peu plus de 150 euros. Donc, à la bourse de l'Algérien moyen, à la portée. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'Algériens, beaucoup de demandes qui n'ont pas été satisfaites. Franchement, les Algériens ne cessent d'étonner. Parce que même hier, dans le stade, il y a eu le chef de l'État qui, pourtant, souvent contesté pendant les manifestations, hier, non, il a été applaudi. Et les Algériens disent le linge sale s'élève en famille, pas en dehors de l'Algérie, donc on fait vraiment à la part des choses entre la fête, la consécration de la finale, la joie aujourd'hui et certainement cette semaine, mais vendredi, je pense qu'il y aura encore une grande manifestation.
Asma Halimi, rédactrice en chef du quotidien sportif algérien Compétition, est avec nous. Damien Perrinel.
Bonsoir Asma. J'ai une question un peu pour faire le lien entre politique, jeunesse et ce qui s'est passé sur le terrain. On a souvenir à une certaine époque de la Côte d'Ivoire où Didier Drogba s'était mis à genoux dans un vestiaire pour implorer que le peuple ivoirien se réunisse et qu'il y arrête, que la guerre civile s'arrête. Est-ce qu'il y a un joueur ou peut-être le coach aujourd'hui qui est vraiment l'emblème de cette Algérie qui est à l'unisson?
C'est toute cette équipe qui est actuellement l'emblème. Après le match face à la Côte d'Ivoire, face à la Côte d'Ivoire où il y a eu le pénalty raté des Ivoiriens, juste après le match sur les réseaux sociaux, parce que comme lui il s'appelle Raïs, et Raïs en arabe c'est président, vous voyez Raïs volé en costume à côté du drapeau et tout le monde disait voilà on a notre Raïs. C'est vraiment... c'est vraiment, cette équipe est vraiment emblématique et elle porte aussi un message politique. Et les joueurs ne sont, sont pas cachés, hein, à chaque fois, même en conférence de presse, pas plus tard que, qu'avant-hier, il y avait un journaliste justement du Monde avant la finale qui parlait, qui posait la question, est-ce que justement ce mouvement de manifestation influencé directement, directement sur ces joueurs? Il en a compte, oui, effectivement, nous on représente le peuple et on ne pouvait pas être attentifs à ça. Donc, c'est sûr que ces joueurs, et Belmadi le répète à chaque fois, hein, même il ne s'en cache pas. Donc, il est avec tout le monde, dit qu'on est avec le peuple, on peut pas aller à, on vient du peuple et on ne peut pas aller à l'encontre du peuple.
Voilà. On a souvent entendu un slogan également, nous depuis la France, Belmadi est le seul B que nous voulons pour l'Algérie. Référence à Bouteflika, référence à Bédoui, également le Premier ministre actuellement. Est-ce qu'il lui dit qu'il n'a pas d'avenir politique, qu'il parle que de football également. Tu penses que, enfin, vous pensez à Smack, sa popularité dépasse celle de tous les dirigeants algériens aujourd'hui? C'est l'homme préféré des Algériens aujourd'hui?
Je pense que Belmadi se présenterait pour les, pour l'élection présidentielle, et là, elle gagnerait haut la main, actuellement. Franchement, oui, c'est pour ça que je dis que les gens font vraiment la part des choses et leur popularité est immense parce qu'ils ont vraiment fait quelque chose. Ils se sont battus à un moment crucial pour cette Algérie et dans un moment difficile. Ils ont montré qu'ils ont, se sont battus dans chaque match. On les a vus comment ils étaient franchement à fond. Et ce combat, parce que eux, pour eux, c'était un combat qu'ils ont mené pour ce peuple algérien durant cette crise. Eh ben voilà, c'est pour eux et rien que pour eux. Donc oui, leur popularité actuellement est sans la moindre hésitation est franchement au top et elle restera pendant longtemps. Ils sont immortels et personne n'osera plus jamais les critiquer, je pense. Donc, celui qui les touchera,
ça, ça va vite, dans le football.
Ça va vite et en Algérie aussi. Hein, on sait que les supporters sont hyper exigeants et ils peuvent descendre un sélectionneur comme nous en France.
Du jour au lendemain, mais bien sûr.
Du jour au lendemain.
On adore brûler ce qu'on a adoré auparavant.
Les médias, mais pas la population.
Les médias, les supporters.
Oui, mais pas le peuple. Pas le supporter, on se rappelle tous que quand Vahid a été descendu en flamme durant la CAN 2013 et comment tous les supporters algériens étaient contre les médias et 13 milliards entre les médias et le peuple. Donc oui, peut-être les médias, mais le peuple, non, ne suivra pas. Je suis sûr qu'il ne suivra pas.
On est avec Asma Limite avec nous, rédactrice en chef du quotidien sportif algérien Compétition. On est aussi avec notre envoyé spécial qui s'est payé 24 heures de plus au Caire, Timothée Mémon, qui a suivi également de temps en temps la sélection algérienne. T'as dû le croiser, Asma. Timothée, c'est un grand beau mec, très élégant. Salut Timothée.
Plus ou moins élégant quand il fait 40 degrés dehors.
On parle bien de toi, Timothée. C'est bien.
La sueur n'altère pas ta beauté, Timothée. Non, Timothée, t'as suivi également Belmadi. Est-ce que tu l'as vu évoluer dans son rapport aux médias, son rapport à ses joueurs également? Est-ce qu'il est le même sélectionneur que t'as vu hier soir encore à la fin, après la finale, que celui que t'as rencontré au début de la CAN?
Face aux médias, il est toujours le même sélectionneur. Il est souvent un peu timide. On ne sait pas s'il est défiant ou timide. Durant les conférences de presse, il faut bien 5-6 questions pour commencer à le détendre. Mais surtout, ce qui m'a frappé, c'est qu'il a une façon de coacher, une façon de communiquer qui est systématiquement dans la protection de ses joueurs. Et étant donné la mission qu'on lui a confiée, avec le peu de temps qu'il a eu,
dis-moi,
il n'avait d'autre choix que de se mettre au devant, que de prendre la lumière, que de prendre la pression sur lui pour permettre à son groupe de travailler correctement.
Dis-moi, tu disais Jonathan, en 10 mois seulement, on opère une mission incroyable qu'il a réalisée.
Mais c'est ça qui est extraordinaire avec lui, c'est parce que quand il prend la sélection, il y a 10 mois, la sélection est en piteux état.
Il est critiqué aussi, personne n'y croit.
Bah, c'est ça, l'avant-canne n'est pas brillant. C'est pas brillant du tout. Les matchs amicaux ne rassurent pas du tout. Au final, l'Algérie arrive, c'est loin d'être un des favoris de la compétition. Parce que même si sur le papier, il y a des très bons joueurs, ça, il n'y a pas de discussion possible à avoir là-dessus. Quand t'as Mahrez, quand t'as Feghouli, quand tu peux te permettre de mettre un Brahimi sur le banc, c'est que t'as un bon groupe. Mais ça faisait partie des 4-5 équipes outsiders, si ce n'est surprise, derrière les trois gros favoris qui étaient l'Égypte, le Maroc et le Sénégal. Donc, ce qu'il a réussi à faire, c'est prodigieux. Et par rapport à ce que dit Timothée, sur son management, qui est assez proche des joueurs, protection des joueurs, je pense que par rapport à une compétition comme la CAN qui dure, voilà, où t'es allez un peu plus d'un mois en vase clos, t'es en groupe, je pense que ça sublime en fait cet esprit, ça transcende un petit peu ce que Belmadi a réussi à faire, c'est-à-dire créer un vrai esprit de groupe, un esprit commando, des joueurs qui sont partis à la guerre pour une mission bien précise, et son management a été parfaitement adapté à la situation.
Asma, Belmadi, c'est vrai que c'est presque un exploit ce qu'il a réalisé. Il y a 10 mois, vous confirmez qu'il y a 10 mois quand il est arrivé, certains pensaient qu'il n'avait pas les épaules pour un tel costume.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques critiques, mais pas par rapport à Jamel Belmadi. Hein. Sa nomination a été unanime. C'est le fait que, surtout par rapport à la fédération qui parlait d'un entraîneur, d'engager un entraîneur mondialiste et tout, et en fait, engager un entraîneur par défaut. C'était plus que ça, mais la nomination de Jamel Belmadi n'a jamais été remise en cause par rapport à ce qu'il avait réalisé, par rapport aux joueurs qu'il a été ici. Tout le monde, il a laissé vraiment très bonne impression avec l'équipe d'Algérie. Il a été son capitaine, donc là-dessus rien à voir, mais juste pour avoir suivi cette équipe nationale depuis toujours et depuis surtout l'arrivée de Jamel, c'est vrai qu'il y a 10 mois et demi, cette même équipe sans peut-être 4 ou 5 joueurs, c'est vrai que 4 ou 5 joueurs dans un 11 c'est important, mais qui ne pouvaient même pas faire 3-4 passes devant. Donc,
l'équipe était minée par les égos. C'est ça qu'il a réussi à faire. Toujours eu des bons joueurs, mais qui jouaient un petit peu leur partition en solo, chacun de leur côté. Et Belmadi, il suffit de voir la CAN d'un Mahrez ou d'un Feghouli qui ont été dans le sacrifice et le don de soi pour se dire qu'il a vraiment réussi son pari.
Asma, Jonathan, vous restez avec nous, bien sûr. Asma Alimi, la rédactrice en chef du magazine du quotidien Compétition en Algérie. On évoquait dans un instant également la réussite de Belmadi. On continue là-dessus. On a beaucoup d'appels au 32-16. Et la suite, l'avenir. Quel avenir pour la sélection algérienne? Jusqu'où elle peut aller? Parce qu'il y a un groupe qui est né incontestablement au sein de la sélection algérienne. Jonathan Macaï, Damien Perrinel, Asma Alimi sont avec nous dans l'after. On revient dans un instant, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Je trouve pas les mots, je suis trop contente pour l'Algérie. On a attendu longtemps cette victoire.
On est fiers d'entre pays, l'Algérie. On a gagné avec un très bon match.
On a gagné avec fierté.
C'est euphorique, c'est exceptionnel. C'est un moment historique pour l'Algérie et pour le peuple algérien.
Nicolas Jamin.
C'est la folie en France hier soir, c'est encore la folie en France ce matin, la folie bien sûr cet après-midi à Alger, la capitale algérienne, et dans tout le pays, des dizaines de milliers de supporters algériens qui ont fêté le retour des héros au pays. C'est l'after, on est ensemble jusqu'à minuit à partir de 22h30. Supporters lyonnais, appelez-nous, on s'interrogera également sur les premiers pas de Silvinho à la tête de l'OL. Le PSG, le recrutement du PSG est-il assez ambitieux, celui de Leonardo surtout? Mais on reste avec Asma Alimi, rédactrice en chef du quotidien sport en Algérie, compétition, Jonathan Macardi et Damien Perrinel sont à mes côtés également. Asma, je ne sais pas si ça vous a échappé, mais il y a quelques minutes, Zidane a posté une photo sur Instagram. Il a rendu hommage à la sélection algérienne. J'imagine que ça fait parler également en Algérie.
Quand Zidou pose quelque chose pour l'Algérie, il n'y a rien à dire. Hein. Ça fait tout de suite le buzz chez nous. Déjà, il y a eu l'arrivée de Franck Ribéry. Hier, j'ai eu la chance de croiser parce qu'il était au stade et après, il est venu jusqu'à l'hôtel des joueurs pour les féliciter.
Franck Ribéry.
Après les avoir
fêtés. Avec la famille.
Avec une tenue assez particulière d'ailleurs.
Il n'est pas venu en bavarois.
Non, avec des espèces de chaussettes qui ressemblent à des bas de contention ciblés.
Les deux tenues qu'il avait mises étaient correctes. Donc, au stade, et après, il a aussi tenu à venir les féliciter à l'hôtel. Donc, c'est vrai que le tweet de Zizou, on les avait encore plus fiers de ce sacre.
Et il a félicité les Fenech, effectivement, Jonathan.
Non, mais il y a quoi? Non, mais t'as pas vu la photo de Ribéry là?
Je l'ai pas vu.
Je te la retrouve, j'ai ça, t'es marré.
Quoi, des bas de contention? C'est pas des chaussettes bavaroises, t'es sûr?
C'est des chaussettes un peu d'une grande marque de luxe, mais qui ressemblent à des bas de contention remontées jusqu'au genou, c'est prodigieux.
Asma, j'ai une question par rapport à la communication que Belmadi a eue avec vous, avec la presse. On a l'impression que, enfin, quand il y a eu les antécédents avec Rabah Madjer, où là c'était vraiment un gros conflit avec la presse. Je sais pas, Timothée, quelle a été ton impression également, mais en fait Belmadi, cherchait à protéger son groupe certes, mais dès qu'on approchait sur une question l'aspect tactique ou qu'on remettait en cause certains choix, là tout de suite il mettait le holà. Il disait non, ça c'est mon domaine, on rentre pas dedans, et parlez de tout ce que vous voulez, mais ça c'est pour moi. Comment ça a été ressenti en Algérie là-dessus?
Eh ben, c'est exactement le cas. Jamel n'aime pas trop quand on parle des aspects tactiques. Moi qui étais à Doha, justement, il y avait les deux matchs qui étaient, le premier match qui était, il y avait le public était autorisé à venir, mais pas de retransmission télévisée. Mais pour le deuxième match face au Mali, c'était le huis clos total. Bon, je lui avais demandé d'assister au match. Il m'a dit OK, mais à condition que tu parles pas tactique, que tu dises rien dans ce domaine sur certains aspects. Et c'est vrai que quand conférence de presse, quand on pose, d'ailleurs plus personne n'ose lui poser des questions comme ça. Il intimide presque les journalistes. Au fur et à mesure des conférences de presse, il n'y avait plus beaucoup d'Algériens qui posaient les questions à Jamel.
Moi, il me fait penser à Deschamps un peu. Il y a une sorte de Deschamps assez pragmatique dans le style de jeu, le tactique et dans la communication, à impressionner les journalistes et à ne pas justifier ses choix.
Timothée.
Ouais. Si je vais me permettre, Nicolas, il a vraiment eu la communication. C'est réducteur et j'espère que l'avenir nous dira que je me trompe. En tout cas, il a eu une communication de circonstance un peu celle du pompier de service. Et cela s'explique par le côté très court de son mandat pour réussir cette compétition. Il n'avait que 10 mois et il a fait ce que font beaucoup d'entraîneurs quand on leur dit « Tenez, on est à la mi-saison, on est 18e, il faut que vous nous sauviez. » C'est-à-dire qu'on ferme les portes, beaucoup de huis clos, on met beaucoup de choses dans la vie de groupe, peut-être un peu moins de choses dans la tactique, c'est aussi pour ça qu'il en parle peut-être un peu moins. On met en place des choses très simples, des concepts très simples, des systèmes très simplistes que les joueurs comprennent parce qu'ils jouent dans ces systèmes-là en club. Et c'est ce qu'a fait Jamel Belmadi avec brio, tant mieux pour lui. Maintenant, je suis très curieux, je suis très intéressé de savoir ce que va être le Jamel Belmadi de la construction des années à venir.
Confirmer, c'est le plus dur. Hein. C'est ce qu'on dit aussi en football très très souvent, dans le sport en général. Asma, on va évoquer l'avenir également au 32-16. Tiens, Aïssa, supporter algérien, nous a appelé. Salut Aïssa.
Salut les gars, ça va? Salut.
Ouais, ça va. Salut, toi, bon, t'as dormi ou pas? T'as fait quoi hier soir?
On a dormi un peu. Non, on est sorti en famille.
Ouais, enfants, bien.
C'est ça. Je viens de Strasbourg, mais franchement, c'était cool. Hein.
C'était comment l'ambiance?
Franchement, c'était nickel. Il n'y a pas eu de débordement, rien. C'était festif. Franchement, ça s'est super bien passé. On a fêté, puis on est rentré tranquillement.
Aïssa, on voulait évoquer l'avenir maintenant de la sélection algérienne. On ne savait pas dans quel état elle était avant la CAN. On sait dans quel état elle a fini, avec plein d'espoir désormais. Est-ce que tu penses qu'elle a un vrai avenir? Quand je dis avenir, on peut aller très loin. Il y a la Coupe du Monde en 2022, au Qatar. Est-ce que, bon, va falloir se qualifier d'abord pour le Qatar. Tu penses qu'elle sera un outsider à terme, avec les progrès qu'elle peut faire d'ici 3 ans?
Écoute, outsider, pourquoi? Pour gagner la Coupe du Monde?
Pas forcément pour la gagner,
Je pense que déjà, si je peux me permettre, on peut déjà au moins se projeter sur la prochaine CAN.
On va le faire.
La prochaine échéance. Et parce qu'il y aura Yadou qui va couler sous les plombs jusqu'à la Coupe du Monde.
Qui est le curseur à prendre en compte, parce que franchement, la CAN, c'est quand même, malgré tout, c'est quand même une compétition difficile, dans des terrains assez difficiles, quoique cette année, franchement, ils étaient corrects, avec des températures souvent difficile.
Ouais.
Moi, je posais cette question à Max tout à l'heure parce que je voulais vous la poser aussi. Est-ce qu'il va réussir à construire? Je pense que s'il s'appuie sur la recette qu'il a faite, c'est-à-dire que pour la première fois, il a réussi à mettre l'ego des joueurs de côté. Après, quand je dis ego, c'est pas forcément. C'est pas parce que les joueurs, c'est des superstars ou quoi. C'est que les Algériens, ils ont un ego surdimensionné. Voilà, ils sont comme ça. C'est moi, vous voyez, c'est comme ça.
Ouais, ça se voit quand c'est un coup franc intéressant à tirer par la surface.
Toi aussi, Aïssa, t'as un ego? Aïssa, t'as un ego surdimensionné aussi ou pas?
Moi, j'en distrie, donc
Non, mais après, pour revenir sur ce que dit Aïssa, bien sûr qu'il y a l'ego, et il a fonctionné là-dessus, en effet, sur cette compétition, il n'avait pas beaucoup de temps, maintenant, il va falloir qu'il construise autre chose, donc ça va de soi que Belmadi, aujourd'hui, va être reconduit pour les prochaines saisons, mais surtout au niveau de l'effectif, on voit que c'est un effectif qui peut encore évoluer sur quelques années, il y a que 4 ou 5 trentenaires. Donc tu vois, un Mboli, un Guedjuria, ça va être compliqué pour eux de continuer, bien qu'ils sont très très importants aujourd'hui. Mais voilà, c'est un groupe quand même qui a une moyenne d'âge de 25-27 ans. Et puis, il va falloir qu'ils prennent un peu de bouteille, qu'ils jouent dans des clubs d'un peu plus haut niveau pour vraiment faire quelque chose sur une Coupe du Monde. Parce qu'une CAN, c'est particulier quand même comme jeu. C'est un jeu qui a rien à voir avec ce qu'on peut avoir sur une Coupe du Monde.
C'est ça, ouais, c'est vraiment particulier la CAN. Donc c'est ça que moi je dis, il faut pas forcément prendre, on l'a gagné. Franchement, il n'y a pas beaucoup de monde qui pensait qu'on allait la gagner. Après, là, il a réussi sa mission commando. Maintenant, il peut s'appuyer sur des joueurs, par exemple, comme je pense à Ounas, il est jeune.
Il continue
à défendre du côté de Naples. Voilà, il fait des rentrées intéressantes. Maintenant, il faut qu'il essaie de s'affirmer comme un cadre pendant les années à venir.
Ounas a été le joueur le plus efficace en temps de jeu. Il a marqué 3 buts, une passe décisive en 3 matchs.
Ce qui va compter pour l'Algérie, à mon sens, c'est que là, je veux revenir sur ce que tu disais, Nico. Tu faisais le parallèle entre Belmadi et Deschamps. Je trouve que, en termes de jeu, quand même, Belmadi, il a réussi sur cette CAN à donner un certain style et une certaine personnalité à son équipe. C'était l'équipe qui jouait le mieux, qui avait le plus de certitude collective, qui nous a proposé les plus beaux mouvements. Alors, si on met de côté la finale, qui est pas vraiment représentative parce que c'était une finale, parce qu'il y avait énormément de jeux, qui était, voilà, l'Algérie a déjoué, il y a ce but qui marque très tôt, qui fait que, voilà, bah, après, ils mettent le cadenas. Mais, je pense que tactiquement, même si, on a tendance à dire que c'est assez simpliste ce qu'il a fait, moi, je trouve que c'était assez élaboré. Et, j'attends de voir comment il va faire évoluer son équipe, mais ce qui est sûr, c'est que il a des certitudes tactiques, il a un réservoir de joueurs qui est intéressant, il a des talents individuels qui sont supérieurs à la moyenne, je pense à un Riyad Mahrez ou à un Bennacer, et pour moi, il y a tout pour que l'Algérie, ça devienne, alors pas un favori pour la prochaine Coupe du Monde, mais du moins un bel outsider, ils vont arriver, la Coupe du Monde sera dans un pays arabe en plus, pourquoi pas.
Merci à essayer d'avoir ajouté 32-16.
Jonathan, il va falloir rajouter quand même quelque chose, c'est que Jamel Belmadi va devoir se trouver quelques adversaires dans les années à venir, parce que c'est un peu passé inaperçu, parce que c'était à la veille de la compétition, à la veille de la finale, mais le tirage au sort des groupes pour qualificatifs pour la prochaine CAN 2021 au Cameroun sont tombés, et l'Algérie tombe avec la
Botswana,
Zambie,
le Zimbabwe
et le Botswana. Voilà, ce sera quand même des équipes pas extrêmement relevées, même si la Zambie a un peu élevé son niveau. Il va falloir se trouver quelques adversaires pour que la progression continue, et des matchs amicaux qu'il va falloir jouer avec le sérieux d'un match de compétition.
Ouais, en tout cas, je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi je trouve que l'Algérie sur la compétition, c'était l'équipe la plus complète. C'est la meilleure équipe qui a gagné. Peut-être sur la finale, à l'instar
la plus belle.
Comme mon collègue me disait, ils ont marqué très tôt, à l'instar de la finale de la Champions League. Bon, on va pas comparer, c'est pas comparable, mais ils ont marqué très tôt, peut-être un peu trop tôt, pour que le jeu se développe et que.
Ça les a anesthésiés.
À chaque fois qu'on regarde les matchs de l'Algérie, ils ont la possession, etc., jusqu'à qu'ils marquent. Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, qu'ils marquent le but. Dès qu'ils marquent le but, ils se contentent un petit peu.
Mais justement, moi, ce que j'aurais aimé voir, ça leur est arrivé une fois dans la compétition, mais ils ont bien réagi, mais c'est de voir leur réaction lorsqu'ils sont menés au score. Parce que quand ils sont menés au score, là, c'est différent avec leur style de jeu.
Merci Aïssa d'avoir appelé. Aïssa, merci d'avoir appelé au 32-16. Asma Limi, toujours avec nous avant de vous libérer. Merci d'avoir répondu dans l'after. Objectif, victoire à la CAN 2021, c'est ça. C'est au Cameroun. Les supporters algériens ne voient rien d'autre comme objectif.
Ah non. Le principal objectif, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est vrai que d'abord, il y a les deux en parallèle, on a joué en même temps presque, parce que les éliminatoires de la CAN vont débuter en mars, au mois de novembre, et les éliminatoires de la Coupe du Monde en 2020 aussi. Donc des éliminatoires qui vont être très très durs, parce qu'il y aura dix groupes de 5. Et après, il y aura des confrontations directes, c'est-à-dire on revient à l'ancien système comme en 2014, c'est-à-dire il y aura des confrontations directes entre deux équipes, et donc ça va pas être très très simple la qualification pour la Coupe du Monde 2022. Donc ça va être ça le principal objectif, et bien sûr essayer de garder le titre en 2021, mais je pense que tous les Algériens, si vous leur donnerez le choix entre une Coupe du Monde et une autre CAN, on choisira une Coupe du Monde.
C'est bon, la CAN s'est gagnée déjà deux fois. Merci Asma.
Ciao Asma.
Merci. Excellente soirée. Merci Asma Limi, rédactrice en chef du quotidien sportif algérien Compétition. Merci Timothée également. Retrouve ta voix avant de rentrer à Paris, Timothée. Excellente soirée à toi au Caire. Il est parti, Timothée. Il va rester avec nous, Timothée, pour son équipe type dans un instant, qui nous a soumis. Reste là, Timothée, reste encore un peu avec nous. Tiens, même le roi du Maroc, Mohamed VI, a félicité le voisin algérien aujourd'hui. On sait qu'il y a des tensions depuis quelques années, quelques décennies entre l'Algérie et le Maroc, pour le Sahara occidental notamment. Et les Sénégalais aussi, c'est important de le préciser, ont été fêtés aujourd'hui pour leur retour à Dakar par des milliers de supporters également. Les Lions de la Teranga. C'est l'afterfoot, on revient dans un instant avec Damien Perrinel, Jonathan Macardy, bien sûr. On va faire le bilan maintenant. Top flop de la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe type également. On va débattre. Appelez-nous au 32-16, donnez-nous votre flop et votre top également de la CAN. On revient dans un instant, à tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Jamain.
Et oui, on est là tous les soirs, comme tous les soirs jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot avec Damien Perrinel, avec Jonathan Macardy. On déroule encore le programme, la Coupe d'Afrique des Nations. On revient sur cette CAN remportée hier soir par l'Algérie, bien sûr, à 22h30. Je vous rappelle, on évoquera l'actualité de l'Olympique Lyonnais, les premiers pas de Silvinho à la tête de l'OL. Et puis, on débriefera notamment le match amical du PSG et le mercato qu'est en train de dessiner Leonardo à la tête du Paris Saint-Germain. Lors du bilan, messieurs, bilan de la Coupe d'Afrique des Nations, traditionnel jeu en fin de compétition internationale, on va noter cette CAN, tout simplement. Globalement, Jonathan, positif, négatif, le bilan?
Positif, c'était la compétition qui a été la plus agréable à suivre durant l'été, parce qu'il y avait la Coupe du Monde féminine, la Copa América et puis cette CAN. Moi, j'ai trouvé ça hyper...
C'est quoi ton classement des compétitions de l'été, là?
Ah bah, CAN, Copa América et Coupe du Monde féminine.
Moi, j'ai préféré la Coupe du Monde féminine à la Copa América.
Est-ce que... Sincèrement. Est-ce pour autant que les trois compétitions étaient d'un haut niveau?
Non, la CAN, alors c'est le format, hein, c'était la première CAN à 24, la première CAN en été. Qui n'est pas en hiver. C'était une CAN qui a été organisée à la va-vite en Égypte. Ils ont eu juste 5 mois pour se préparer. Et au final, bon, bah, il y a eu des matchs un petit peu pénibles, on va dire, lors des phases de poule. Mais ce qu'on a vu à partir des phases à élimination directe, c'était relativement correct, quoi. Donc, je te dirais pas que c'était du très haut niveau, que c'était un euro ou parfois une Coupe du Monde, mais c'était quand même très très regardable, je dirais.
Ce que je trouve curieux, c'est que c'est peut-être l'une des CAN qui a été la plus médiatisée, la
parce
plus
que
suivie.
En général, c'est en janvier, c'est
certainement.
Ça.
Et pour autant, je trouve pas que ce soit la CAN qui ait produit le plus d'émotions, même mis à parler cette victoire de l'Algérie. Et puis nous aussi en France, c'est vrai qu'on est concerné par cette victoire aussi. Mais dans l'ensemble, c'était une grosse déception. C'est-à-dire quand on me demandait de regarder un match de CAN, je le regardais, bien sûr. J'essayais de l'analyser. Et c'est pas toujours facile d'analyser un match de la CAN.
C'est le format d'être passé à 24 équipes. Forcément, t'as des confrontations où les écarts de niveau sont beaucoup trop importants.
Ouais, mais attends, sans passer à 24, il y a pas Madagascar qui a été une émotion de la Coupe d'Afrique des Nations également. L'Ouganda également. Non, mais c'est vrai.
L'Ouganda, s'ils y auraient été.
Non, mais on est des émotions, mais en termes de ce qu'on a pu avoir en jeu.
Après,
c'était une énorme déception d'un point de vue.
Pourtant, il y avait des pelouses cette année. Il y avait des vraies pelouses.
La Copa América avec la Coupe du Monde féminine.
Ah, mais justement, c'est pour ça que là, pour moi, on compare des choses sur l'été où des compétitions qui étaient d'un niveau assez faible.
Allez, top, Jonathan, on démarre avec toi. Top de la Coupe d'Afrique des Nations. T'en as 5, vas-y, déroule.
Le premier un peu long, le top, c'est évidemment l'Algérie. On en a parlé longuement auparavant, avec le contexte politique du pays, avec les périodes mouvementées que le peuple algérien a vécu. On sait que c'est une population qui est très jeune. Quasiment la moitié de la population a moins de 26 ans. Donc je pense que c'est un très beau symbole que l'Algérie gagne sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations, comme les gens dans la rue et là-bas à Alger le disent, la deuxième CAN, maintenant la deuxième République. Espérons que ça mette le pays sur une dynamique qui soit plus positive, parce que c'est un pays qui est cher aux yeux de la France. Et deuxième petite chose par rapport à l'Algérie, très franchement, si je pouvais dire une chose, c'est que ça témoigne, cet engouement des Algériens de France, ça témoigne de quelque chose qu'il faudra analyser peut-être avec plus de profondeur, mais qui pousse le débat un petit peu plus loin, qui l'élargit sur ce qu'est vraiment être français en 2019. Alors après, plus rapidement, mon deuxième top, il y a Madagascar obligatoirement. Première participation, ils vont direct en quart de finale. Des joueurs amateurs, une histoire qui est magnifique, on en a parlé longuement dans l'after, donc ça c'est mon deuxième top. Le troisième top, je mettrais l'Ouganda. Alors ils sortent face au Sénégal, mais franchement, ça a été une équipe qui a été hyper agréable à suivre. C'est une belle surprise de cette CAN et je pense que c'est une sélection qui a beaucoup d'avenir. Le quatrième, je mettrais le Bénin. Dussuyer a quand même réussi à amener le Bénin beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait penser en début de compétition. Donc mention spéciale pour cet entraîneur-là. Et le cinquième top, c'est les pelouses. Habituellement, on est habitué à voir une CAN avec des pelouses désastreuses. Là, très franchement, les pelouses, c'était des billards, donc c'est rafraîchissant.
Damien.
Écoutez,
t'as combien? T'as 12 tops? 13?
Au niveau des tops, j'ai pas été aussi... aussi bon que Jonathan. Si je vais résumer un truc, une expression pour un peu faire tes 5 tops, pour moi c'est le collectif qui a gagné dans cette CAN. C'est-à-dire que le Bénin, tu prends le Bénin, l'Ouganda, Madagascar, l'Algérie, ce sont les équipes qui ont présenté un collectif cohérent, solidaire, même ambitieux par moment avec l'Algérie, qui a succédé dans cette CAN. Donc c'est ça. Après, je vais avoir beaucoup plus de flops.
Ça veut dire que les stars de la CAN sont des flops, en fait. C'est ça l'histoire.
On est en train de
s'européaniser un petit peu justement pour gagner une compétition. On crée des blocs collectifs cohérents plutôt que de mettre en avant des individualités.
Ouais, mais cela n'empêche pas.
ça.
Cela n'empêche pas d'avoir.
Il y a pas un peu de ça quand même. Moi, j'aime bien la canne.
Ils allaient en porte-pièce, monsieur Germain.
Non,
c'est refusé. Non, mais cela refusé.
Mais non, n'empêche pas d'avoir des stars dans une équipe.
On n'a jamais vu une canne avec autant de blocs défensifs, autant d'équipes cohérentes. L'Algérie, on a un symbole.
Non, non, je pense pas, parce que l'Algérie a été très bien organisée collectivement, mais l'Algérie a été aussi brillante sur le plan offensif et collectivement. Et ce qui a été le tout le travail de Belmadi, qu'il a très bien fait, c'est qu'il a su se servir du talent individuel de ses joueurs pour sublimer le collectif. Donc ça n'a pas vraiment été la vieille recette. Je vois ce que tu veux dire, hein, c'est-à-dire bon ben on essaie juste, on n'a pas vraiment de talent, mais on va tous mettre le bleu de chauffe, aller ensemble, aller au combat. Tu sais les Fred Antonetti qui disent des couilles. Non là, ouais. Voilà. Exactement. Là, la victoire de l'Algérie, c'est la victoire d'un collectif qui a été vraiment sublimé par des individualités. Alors même si sur la finale, on peut pas trop analyser ça, mais regarde par exemple qui les qualifie en finale. C'est un coup franc de Riyad Mahrez à la dernière minute. Ça, c'est le talent. C'est le talent pur.
Mais qui défend pendant 88 minutes hier en finale justement après le fameux score. Tout le monde défend.
Mais c'est le seul match où
ça n'existait quasiment pas avant.
Riyad Mahrez a joué hier. Moi, j'ai jamais vu le ballon.
Il a été hyper important sur ses replis, quoi.
Et c'est pas, non, je dis pas ça contre lui, pour prouver justement le niveau de cette finale où tous les joueurs de ballon n'ont pas eu le ballon.
Un dernier mot là-dessus, parce que on l'a dit hier, mais je pense que c'est important de le redire quand on parle de l'Algérie. Faut prendre en compte le scénario du match. Il marque très vite. À la deuxième minute, ça les pénalise, enfin, ça les paralyse un petit peu. Et surtout, c'était dans leur intérêt de laisser le Sénégal faire le jeu. Parce que le Sénégal ne sait pas faire le jeu.
Jonathan, je suis complètement d'accord avec toi que le scénario du match nous a donné un match comme ça. Mais cela dit, ça n'empêche pas quand même des moments de pouvoir faire des passes, d'éviter de jeter des ballons à tout va devant,
Fait caca culotte,
franchement.
La peur de gagner, ouais,
c'est historique, t'imagines?
Je comprends, c'est historique.
Au bout, mais 30 ans
tu peux
après.
Quand même jouer au foot. Et c'est là où tu donnes le ballon à des Riyad Mahrez, à des Fégouli.
Timothée Mémon qui est toujours Poker, notre envoyé spécial pour la Coupe d'Afrique. Timothée, toi qui as vécu la CAN dans sa quasi-intégralité, donne-moi un top et un flop de ta CAN vécue à l'intérieur.
Alors, le top pour moi, c'est l'arbitrage. Très clairement, l'arbitrage africain a été excellent tout au long de cette compétition. J'avais peur qu'au quart de finale, avec l'entrée et la mise en place de la VAR, ça ne soit un petit peu moins bien. C'est resté cohérent. Allez, il y a eu deux ou trois matchs peut-être un peu moins bons. L'arbitre d'hier n'a pas été grandiose, mais il a été bon, il a tenu son match. Un grand bravo à l'arbitrage africain. C'est vraiment ce que j'ai voulu mettre en avant tout au long de cette compétition parce qu'ils m'ont épaté. Le flop, c'est évidemment l'affluence des stades vides pour une Coupe d'Afrique des Nations. On vient pas couvrir une compétition pour avoir 2000 personnes dans un stade qui peut en contenir 70 000, c'est un petit peu dommage. Et encore une fois, je le redis, le système des fan ID qui existe depuis quelques années dans toutes les compétitions internationales, c'était le cas en Russie l'année dernière, c'était le cas pour l'Euro 2016, ça n'est pas un système qui peut fonctionner. Quelqu'un qui aime le foot, qui habite au Caire, doit pouvoir au dernier moment acheter un billet. Quand on n'a pas de fan ID, quand on n'a pas fait le processus avant, c'est impossible d'acheter un billet, ça c'est un vrai problème.
Attends Timothée, il y a aussi des questions de sécurité également, ils ont été extrêmement prudent par rapport à un attentat dans le Sinaï quelques jours avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est aussi une explication de la CAF.
Je ne dis pas que j'ai la solution. Je dis que celle-ci n'est pas la bonne. Je suis d'accord qu'il y a des problèmes de sécurité, qu'il faut identifier qui rentre dans le stade, que c'est le but de ces fan ID. Il n'y a aucun problème pour ça. J'ai assisté à une CAN ultra sécurisée, pour ne pas dire ultra militarisée. Mais il y a une autre solution. Il faut trouver un autre
paradis. Ils ont eu 5 mois pour se réparer, Timothée. Timothée, ils ont eu 5 mois pour se préparer.
Mais
j'entends, t'as eu 2000 personnes dans des matchs parfois quand même.
Mon flop, c'est les fan ID. C'est pas tellement cette CAN et ses fan ID.
Ouais,
c'est les fan
ID.
Parce que c'est un problème.
Le patron de la CAF a dit je préfère avoir des stades vides que des problèmes de sécurité. Le contexte est tellement particulier et explosif. Tristan Bodenay-Pesotto est avec nous également, auteur d'un documentaire dont on parlera à 22h, intitulé Evry, l'autre Coupe d'Afrique des Nations. Tu me disais, Tristan, avant le début de l'after, qu'il y avait sûrement plus de spectateurs à Evry que dans les stades en Égypte.
C'est certain, une moyenne 1500 spectateurs par match à peu près. Parfois 2000, on a vu des stades à la CAN où il y avait parfois 1000 spectateurs dans un stade de 75 000 places. C'est sûr que c'est un peu décevant, mais ça fait écho aussi à ces soucis-là de la CAN. Moi, je l'ai trouvé décevante, notamment au niveau du spectacle qui a toujours en tribune dans les CAN habituellement.
32-16, Tariq nous a appelé, supporter du PSG. Tariq, tu viens nous parler c'est de ton flop de la Coupe d'Afrique des Nations.
Ouais,
c'est quoi?
Pour moi, le flop de la Coupe d'Afrique cette année, pour moi, c'est la Coupe d'Afrique en elle-même. Je m'explique, c'est que j'ai pris vraiment aucun plaisir à regarder cette Coupe d'Afrique.
Et toi, tu jettes tout. Tous les matchs, toute la compète, l'émotion de l'Algérie, tout ça.
Juste si je peux m'expliquer. Le seul moment qui
m'a fait kiffer,
c'est
pour quelle équipe,
l'équipe algérienne.
T'es pour quelle équipe, Tariq?
Comment?
T'étais pour quelle équipe, Tariq?
Pour le Maroc.
Ok.
Pour le Maroc.
Ah oui. Alors, vas-y. Déroule. Excuse-moi, t'as interrompu.
Non. C'est le fait, c'est que j'ai, à part la demi-finale et le coup franc de Mahrez, j'ai pris aucun plaisir, que ça soit au niveau sur le terrain, niveau technique, au niveau technique des équipes. C'était la première Coupe d'Afrique depuis un petit moment, depuis la retraite de Eto'o, de Drogba, etc. Où on retrouvait des stars un petit peu dans cette Coupe d'Afrique. J'étais vraiment enthousiaste avec Ziyech, avec Salah, Mané, Mahrez. On s'attendait vraiment à un duel entre toutes ces grandes équipes et ces favoris et ces grands joueurs. Et à la finale, on a vraiment rien eu du tout. Et pas trop d'émotion. Vraiment, une grosse déception. Et
Écoute,
technique des matchs.
Damien, Tariq, dans l'ensemble, je vais dans ton sens après. Sur les matchs de poule, moi j'y ai cru quand même à ces émotions avec les matchs du Maroc notamment, qui ouais. En poule a été très bien, l'Algérie ça a été très bien en poule, et ensuite je me suis dit que voilà, plus la compétition allait avancer avec les phases finales et qu'on allait encore avoir un cran au-dessus. Et finalement non, comme t'as dit, on a eu une émotion avec le coup franc de Mahrez et ce match qui était le meilleur match de la Coupe du Monde, cette demi-finale. Mais sinon, dans l'ensemble, où le joueur africain est réputé pour être technique, un bon manieur de ballon et capable d'exploits. Mais là, on a vu beaucoup de pauvreté.
Même si c'est un peu désordonné, il y a toujours de la
Exactement.
Folie dans les matchs.
C'est vrai, il a raison. Alors, t'as raison, Tariq, mais là, je pense que c'est aussi dû au fait que c'est la première CAN qui se joue en été. Alors, les températures étaient très élevées sur place pour jouer. C'était peut-être pas non plus les conditions idéales. Et juste, ça arrive en fin de saison. Et par exemple, un mec comme Salah, il arrive. Voilà, Jurgen Klopp a dit Mané, il aura 13 mois.
Ouais, mais Jonathan, quand tu joues une Coupe du Monde, tu la joues aussi en fin de saison. Quand tu vas jouer une Coupe du Monde.
Pour le coup, Damien, la CAN est aussi décevante que les Coupes du Monde ou Championnat d'Europe, on a vécu quasiment.
Après, tu vas jouer une Coupe du Monde aux États-Unis ou j'en sais rien, va jouer l'été aux États-Unis, je peux te dire qu'il fait aussi chaud qu'en Égypte.
J'étais pas né en 86.
Le même taux d'humidité.
Ah, c'est pas...
Tariq,
c'est même pire.
Tariq,
ok.
Vas-y, Tariq.
L'une des plus belles Coupes du Monde, je crois que c'était Jérôme Roten qui prenait cet exemple-là en 86. Quand tu regardes le niveau technique de ces Coupes du Monde-là, je pense qu'ils avaient chaud aussi. Et c'était au Mexique, et voilà, c'était pas des excuses.
Ouais,
il était là, niveau technique, il était là. Et après, il y a peut-être une autre explication. Quand on voit qu'à partir de l'Euro 2016, il y a de plus en plus d'équipes dans les compétitions. Peut-être que
il y a une
relation de cause à effet. Quand on voit l'Islande en 2016, quand on voit la Madagascar qui va un petit peu loin, je sais pas.
Le format A24. Moi, je suis pas convaincu par ce format A24.
Mais c'est très bien, c'est universel. Non. On donne la chance à des petits pays du foot justement de se développer pour devenir des grands pays de foot.
Vous êtes un cliché progressiste, monsieur.
Absolument pas. Oui, progressiste. Le progrès, monsieur.
Resserrons l'élite.
Faisons grandir le football malgache et le football islandais ensemble, bien sûr. Merci Tariq d'avoir appelé au 32-16. Tariq, une question. Supporter du PSG, quel joueur tu prends à la CAN pour le PSG à la saison prochaine?
Il y en a un qui va y aller, de toute manière.
Moi, je prends. Là, j'ai tous les pouvoirs, c'est ça?
Non, c'est pas ce soir, ça. Ça, c'est juste, tu prends un joueur.
Tu peux choisir un joueur de la CAN au PSG pour août prochain.
Tu prends Mané direct.
Oh, ouais, compliqué. Ah, il y en a d'autres. Ah,
hein. Chez Paris, j'aurais pris Guedjura ou Koulibaly. Hein.
Non.
Koulibaly surtout.
Guedjura au Paris Saint-Germain.
Mais pour le
Jonathan, il dit je suis démago, le gars. Mais sérieusement.
C'est Kalilou Koulibaly qu'il faut prendre.
Évidemment. Merci encore, Tariq, d'avoir appelé au 32-16. On revient dans un instant à la suite de l'after, bien sûr. On est ensemble jusqu'à minuit ce soir, bien sûr, comme tous les soirs. Équipe type de la Coupe d'Afrique des Nations. Timothée Mémon nous attend également au Caire. Il est toujours là pour son équipe type. Jonathan Macardy, Damien Perrinel, c'est l'after. On est ensemble. On parlera de Lyon. On parlera de ton flop également, Jonathan. Tu y tiens, t'as un vrai flop à. Un gros flop. Reste avec nous. C'est l'after jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC, l'after foot, Nicolas Jamain.
Avec Jonathan Macardy, avec Damien Perrinel, avec Tristan Baudenay, Pesotto, réalisateur du documentaire Evry l'autre canne, on en parle dans un instant. Ça va, Tristan?
Très bien, vous?
Tu es impressionné, écrasé par le charisme de Damien et de Jonathan?
Non, mais je me rapproche plus des positions de Damien, je suis plutôt d'accord avec Damien depuis ce qu'il dit depuis tout à l'heure.
Ah, intéressant!
Il y a le foot, et ouais.
C'est parce qu'il est à côté de toi qui dit ça justement, qu'il a les yeux dans les yeux, Jonathan Macardy, qui voulait nous donner son.
Jonathan est plus costaud que moi, c'est bon.
Alors, t'as annoncé du lourd, Jonathan. Ton énorme flop de la CAN.
J'aurais pu dire Aliou Cissé, parce que même s'il va en finale, c'est parce qu'il avait quand même une super équipe, mais il a fait n'importe quoi en finale. On aurait pu dire l'Égypte, on aurait pu dire le Maroc, Ah oui. Pour moi, il y a un flop qui est passé un petit peu en dessous du radar, c'est ce qui s'est passé avec la Guinée. La Guinée, c'est quand même une sélection qui avait des beaux joueurs. Ils sont qualifiés, limite pour
c'est
les
huitièmes de finale. Attends.
Non, mais attends, tu vas voir. Ils sont qualifiés limite pour les huitièmes de finale. Ils sont sortis par l'Algérie comme des malpoints. Oui. Mais c'est surtout ce qui s'est passé autour. C'est la gestion de la blessure de Naby Keïta et surtout cette affaire totalement surréaliste de Paul Put qui aurait essayé de racketter son staff, d'essayer de racketter ses joueurs. Il y a une enquête.
Il a un nom incroyable, cet homme.
Ouais.
Qui rappelle les tristes heures de l'histoire.
Et tout ça, en fait, toute cette histoire qui est sordide, glauque, tout ce que tu veux, ça cristallise, en fait, tous les clichés qu'on peut avoir, malheureusement, sur la gestion à l'africaine. Ça, je déteste cette expression, mais c'est ce que parfois les gens disent. Et les légendes urbaines qu'on peut entendre sur les petites manigances.
Jonathan, il n'y a pas que des légendes dans le foot africain.
Et voilà, réalité,
il s'est passé des choses en Guinée, mais il y a d'autres pays en Afrique, malheureusement.
Il n'y a pas de Cannes sans grève de joueurs qui touchent pas leur prime.
Et il y a de grosses sélections, notamment, qui ont de très gros soucis.
Mais t'imagines, c'est le sélectionneur.
La Côte d'Ivoire, notamment.
Là, c'est le sélectionneur. Oui. C'est pas la Fédé.
Ça, c'est inédit, ça, quand même. Le sélectionneur qui raquette les primes de l'équipe. Ça, c'est.
Si c'est avéré, c'est scandaleux.
Ça, c'est le pas mec, un flop, c'est un scandale, finalement.
Ouais,
c'est une polémique, c'est un scandale. Voilà, messieurs, c'est l'heure, et c'est une heure importante. L'équipe type de la Coupe d'Afrique des Nations. Tu l'as dit, 24 équipes. Pour combien de joueurs? 24 fois 20, hein. 500 joueurs, à peu près, 600 joueurs sur la Coupe d'Afrique des Nations. On va démarrer avec l'homme qui était sur place, qui a vu le plus de matchs, sûrement, même devant vous, messieurs, c'est Timothée Mémon. Timothée, on va démarrer avec ton équipe type que tu nous as envoyé cet après-midi, et on va réagir à ton équipe type. Je te laisse commencer.
Absolument. Et avant toute chose, je voulais saluer l'épiphanie de Tristan qui a dit qu'on avait déjà vu des Cannes avec pas beaucoup de spectacles, mais que d'habitude on se rattraperait sur ce qui se passait en tribune. Je trouve qu'il a tout résumé. Ouais. Bravo. L'équipe type de cette Coupe d'Afrique des Nations. Dans la cage.
Il est là.
Dans la cage, j'ai mis Raïs Mboli, le portier de la meilleure défense, de la co-meilleure défense de cette compétition. Il n'avait pas beaucoup de concurrence. Ça me semble globalement logique. Je déroule ou vous
voulez faire poste par poste? Je pense qu'on est tous d'accord.
Ouais. Mboli, messieurs, on est d'accord?
Moi, j'ai mis Onyango.
Onyango pour Jonathan.
Mboli pour moi aussi.
Mboli aussi, allez. Deux Mboli. Donc pour l'instant, il est clairement en défense.
Donc les chapeaux, pour l'instant.
Chapeau 1, voilà. Les chapeaux, on en a pour une heure et demie, là. Vas-y.
En défense centrale, j'ai choisi Kalidou Koulibaly parce qu'il a apporté le Sénégal. Il est solide, il est rassurant, il est bon. Ça, on le savait déjà, on l'a vu avec Naples. Il a aussi endossé un rôle de leader. Ça n'est pas rien pour le défenseur central de Naples. Et puis,
il a manqué en finale.
J'ai quand même voulu mettre...
Exactement.
Il a manqué en finale et j'ai voulu mettre un Égyptien et j'ai choisi Ala El Din, le défenseur central de Zamalek, qui a été le meilleur Égyptien de cette compétition. Je pense que sans lui, l'Égypte aurait connu des déconvenues avant les huitièmes de finale. C'est un joueur solide et un joueur qui ferait du bien dans de nombreux clubs.
Okay. On s'arrête sur la défense centrale, messieurs. Koulibaly, pas de débat.
Non.
Équipe type.
On est d'accord sur Koulibaly et même si Koulibaly est là, était là hier, je pense que le Sénégal ne perd pas.
D'accord. Jonathan.
Moi j'ai mis Koulibaly avec Merial, tunisien.
Ouais.
J'ai trouvé impressionnant.
Moi j'ai
il
mis
est grand.
Ouais. Non, je te laisse finir.
Ah non, vas-y, tu
peux le couper. Sa taille, il est grand, il est rapide, il intervient d'une manière super vive, j'étais impressionné par Merial.
J'ai mis Aïssa Mandi. Pourquoi Aïssa Mandi? C'est peut-être pas le joueur qu'on va remarquer dans un premier temps dans une défense, mais comparé aux relances qu'on a pu voir avec son collègue de la défense centrale, il me paraît tellement propre et merci d'avoir des défenseurs propres comme Mandi.
T'es latéraux, Timothée.
Alors mes latéraux, j'ai choisi à gauche Romain Métanière, peut-être plus pour le symbole que pour le niveau. 29 ans, il joue à Minnesota. Il a rappelé à la Ligue 1 qu'il avait quand même de beaux restes. Et puis c'est surtout parce que ça me semblait important de mettre un joueur malgache dans cette équipe type. Et puis à droite, j'ai choisi Amari Traoré. C'était un choix difficile. J'aurais pu mettre Attal, mais finalement ce choix qui se fait un peu par défaut, pour moi il est aussi représentatif d'une CAN où on a vu des latéraux extrêmement faibles dans pratiquement toutes les sélections.
Damien.
Je suis d'accord avec toi sur Attal. Je pense que s'il termine la compétition, c'est de loin le meilleur latéral de cette CAN. Moi, à gauche, j'ai mis Sabali et derrière, j'ai mis Métanière, en fait, juste en doublure, parce qu'en effet, il a été exceptionnel lors de cette CAN, mais c'est le fait qu'il ne soit pas allé très loin dans la compétition que je le mets en doublure.
Tristan.
J'allais dire Sabali.
On va les marier.
Une très propre. Parfait, c'est un
Tristan et Isar.
La naissance d'une grande histoire, une grande amitié.
On va faire.
Damien et Tristan.
Non, Sabali très propre côté gauche en plus, alors qu'il est droitier. C'est très difficile de défendre comme ça.
Jonathan.
J'ai mis Attal parce que c'est vrai, il loupe la finale, mais il a été assez exceptionnel sur toute la compétition. Et à gauche, j'ai mis Rami Ben Sebaini.
Ouais.
Parce que c'est pas non plus, alors c'est pas le latéral le plus propre du monde, mais il a une de ses grinta. Le mec.
Alors, Damien, si vous ne le voyez pas sur RMC Sport News, Damien Pellanel est est effondré. En fait, est effondré sur la table.
Ben Sebaïni correspond à l'idée que je me fais du football que j'aime. C'est-à-dire que c'est un
pourrin. Non, met des coups, non, c'est je refuse.
Vas-y, dis-lui.
Et tu sais ce qui m'a le plus hier, c'est la manière dont il a fait.
Toi, tu aimes les garces, en fait.
C'est une petite garce, Ben Sebaïni, j'adore ça. Parce que la manière de ce qu'il a fait à son coéquipier en club, Ismaïla Sarr, hier, il en a fait sa serpillière, il en a fait sa chose.
Non,
il lui a marché dessus, il lui a fait des fautes de partout, il lui a mis des coups. Il lui a fait la totale. Et ça, bah, le vice, comme ça, ça fait du bien. T'as besoin de vice.
Et ça fait du bien en finale, en plus. Surtout en finale, quand il faut juste gagner.
Et oui, donc Ben Sebaïni.
Ben Sebaïni, c'est un joueur qui pourrait être, pour moi, encore d'un plus haut niveau, s'il arrêtait justement de se polluer l'esprit avec tous ses à côté.
Tu penses à quel à côté?
Mais justement, de toujours mettre des coups vicieux, ainsi de suite.
Ah, moi,
il n'est pas uruguayen, il est algérien.
Ils n'ont pas le monopole du vice.
Vous n'avez pas le monopole du vice, monsieur.
De la garfitude.
Mais exactement, je trouve que c'est. En plus, c'est un joueur qui est capable de déborder de son côté en demi-finale ou en quart.
Et puis, il a fait un centre en magnifique.
Mais non, pas dans l'équipe
type.
Bien sûr.
Il nous reste 2 minutes pour faire les 5 derniers postes. Timothée reprend la main. On part sur les milieux de terrain.
Il reste 6 postes, il y en a 2 là au milieu de terrain qui à mon avis vont pas susciter de débat. Idrissa Gueye, il a prouvé qu'il pouvait être la pierre angulaire d'un système. Super Khan, Ismaël Benacer, évidemment, révélation, métronome, excellent joueur du côté algérien. Et puis je cherchais un troisième milieu de terrain et j'ai choisi un petit coup de cœur, c'est Farouk Mia, le joueur de l'Ouganda, qui joue à Goritza,
ouais, il est très
et qui
bon.
Pourrait jouer absolument partout,
il est très bon.
En Europe, c'est un accélérateur de jeu, il est intelligent, il sait à peu près tout faire, jeu court, jeu long. À mon avis, un bel avenir, il a que 21 ans.
Tu peux enchaîner, Timothée, vas-y.
J'enchaîne avec mon trio d'attaque qui est pas très original. Riyad Mahrez, décisif notamment en demi-finale. Il fait partie des rares stars de cette CAN à avoir tenu son rang. Sadio Mané, 3 buts tout de même. Il a été important pour son effectif. Et puis à la pointe, Odioni Gallo, meilleur buteur de la compétition. Les gens le savent moins. Meilleur buteur aussi des qualifications à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il joue au Shanghai Shenhua. Probablement pour le projet sportif, mais on pourrait imaginer
la qualité
qu'il aurait,
de vie, les installations,
la qualité pour
la nourriture, manger avec des baguettes.
Il pourrait rendre service.
Jonathan, les clichés sur les Asiatiques, s'il te plaît.
Moi, je peux me permettre. Non, mais,
lui, il a
moi,
le droit.
Je peux.
T'es quelle origine d'ailleurs ?
Ma mère est coréenne.
Corée du Sud ?
Oui.
Corée du Sud, voilà. Comme ça, c'est dit, on le sait. Okay. Important de le savoir. Timothée, t'as fini ?
Je crois qu'on a la même hein, dans
oui,
l'ensemble.
Oui, avec Odioni Gallo devant défini. Et j'ai ajouté, j'ai ajouté un sélectionneur, Jamel Belmadi.
Ouais, merci Timothée. Rentre bien en France. Ton flop, c'est ta voix finalement qui était magnifique en début de CAN et qui finit misérablement. Rentre bien en France. Excellent dernière soirée au Caire. L'after revient dans un instant, bien sûr, avec Jonathan Macardy, Damien Perrinel également et Tristan Bodenay, Pesotto. On va finir sur vos équipes types rapidement dès 22h. L'after revient dans un instant. À tout de suite.
RMC. L'After Foot.